Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Super profit pour nos géants du CAC 40. Des bénéfices qui nourrissent des revendications salariales dans les banques, les compagnies d'assurance et même chez LVMH, avec 5 appels à la grève aujourd'hui dans des ateliers Louis Vuitton. L'Info C'est Clair est intitulé CAC 40, super profit et les salaires. Nos invités, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express, en charge du service économie. Jade Grandin de L'Éprevier, vous êtes journaliste économie à L'Opinion. Et Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge, en charge de la politique et de l'économie. Merci de participer à cette émission en direct. Donc Total doit annoncer près de 15 milliards de profits, des profits nourris par l'envolée des prix du pétrole. Alors justement, pour amoindrir la facture des automobilistes, Total accorde une ristourne de 10 centimes par litre, mais uniquement dans les stations de zone rurale. Sujet de Paul-Luc Monnier et François Desraux.
Toujours les mêmes regards, inquiets. Depuis quelques mois, toujours la même appréhension au moment de payer. Mais dans les stations de campagne, le groupe Total Énergie annonce aujourd'hui un geste financier. Pour un litre de carburant, 10 centimes de remise, soit 5 euros de ristourne pour un plein. Une offre valable 3 mois à partir de lundi.
C'est très bien, mais bon, c'est pas suffisant.
Je sais pas si c'est pertinent, si c'est trop ou pas assez, je sais pas. Mais bon, ça aide toujours un peu.
Sur 84 euros, c'est toujours ça de prix après. Mais de là à dire que ça fera revenir chez Total, je sais pas.
Car juste à côté, dans ce supermarché, les carburants sont environ 10 centimes moins chers. Avec cette remise, Total espère donc revenir dans la course. Le pétrolier qui annonce aussi une aide pour une partie de ses abonnés gaz. Ceux qui ont touché le chèque énergie l'an dernier toucheront une indemnité, un chèque de 100 euros. 200 000 clients sont concernés. Alors, pourquoi de telles réductions? Demain, Total présente ses résultats financiers. Sans doute autour de 15 milliards d'euros de bénéfices en 2021, selon les analystes. Tout simplement du jamais vu pour une entreprise française. Pour cet expert, le groupe anticipe la polémique.
Il y a une volonté de Total de dire que certes, ils font des bénéfices, mais qu'ils ne nient pas le contexte socio-économique de précarité énergétique et qu'ils font une action qu'on peut juger symbolique ou non. Voilà, c'est une manière pour eux de montrer qu'ils ont compris ce contexte.
Au total, selon le groupe, les mesures présentées aujourd'hui coûteront 50 millions d'euros.
Alors depuis, ça c'est un sujet qui a été diffusé hier soir, Total vient d'annoncer ses bénéfices, donc c'est 14 milliards. Béatrice Mathieu, là, Total annonce un geste commercial, on peut dire, sur le pétrole, l'essence à la pompe et le gaz, qui va lui coûter 50 millions. Parce qu'en fait, ces super profits, ils agacent même les clients de Total, qui ont l'impression de nourrir les super profits du pétrolier.
Oui, on voit bien que c'est un geste d'image pour une entreprise qui a besoin de redorer son image. Il y a aussi tous les scandales des super investissements qui se font en Afrique, dans des zones où on peut se dire pourquoi Total retourne là-bas. Donc effectivement, c'est un geste commercial dans un environnement où Total a été porté par l'envolée des prix du pétrole et du gaz.
Pourquoi ça lui a l'avantage ? Parce que quand le pétrole est cher, forcément, Total vend très cher.
Bah oui, voilà, c'est ça. Et donc, il y a des marges qui sont très très importantes. Donc, c'est un geste. En fait, on est dans une semaine et même dans une quinzaine où on va avoir tous les jours en fait des profits. Aujourd'hui, c'est Total.
Société Générale. Hier, annoncé 5 milliards 6 record historique.
On avait BNP Paribas il y a deux jours. On va avoir L'Oréal. On a tous les jours en fait, on a un leader du CAC 40 qui annonce des profits records. Donc on est dans une séquence où effectivement on va dire, et ça va alimenter en fait toute une discussion sur que devient ces profits, où vont-ils? Est-ce qu'il n'y a pas trop de profits, quoi? Voilà.
Thierry Fabre, d'ailleurs, il y a la volonté quasi affichée de mettre la main sur ces bénéfices. Alors évidemment, c'est Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français, mais qui dit qu'il faut reprendre la main sur le Grisby qui coule à flot. Pardonnez-moi, mais EDF, face à la hausse des prix de l'électricité, on leur a dit d'organiser des soldes, en quelque sorte, et ça va leur coûter 8 milliards d'euros. Donc il y a quand même l'État qui s'immisce dans la gestion d'entreprises privées pour leur dire maintenant vous faites des soldes, là. Ça suffit les prix élevés.
Alors EDF, c'est un cas particulier puisque c'est une entreprise, même si elle est cotée en bourse, l'État a plus de 80% du capital, donc l'État fait un peu la loi à EDF et lui impose des choses. Il ne peut pas le faire sur les autres groupes du CAC 40 où ces dernières années, il a plutôt allégé les taxes des grandes entreprises. Sous Macron, la baisse de l'impôt sur les sociétés a baissé, les impôts de production ont baissé et donc on a des super profits. Et chaque fois que ces gros profits, du coup, déclenchent très vite la polémique. On se dit, mais pourquoi autant et comme vous disiez, qu'en font-ils? On pourrait se réjouir, a priori, des bons profits du CAC 40 en disant sur des sociétés dont la plupart ont leur siège en France. Et donc, on peut se dire que l'économie française va un peu en profiter. Mais le problème de ces groupes mondialisés, c'est qu'on se rend compte que souvent, il y a beaucoup de délocalisation. Souvent, ces profits se traduisent en énormément de dividendes. La France est quand même le champion d'Europe continentale en matière de versement de dividendes. Et donc, il y a des questions qui se posent autour de ces grands groupes, une polémique récurrente, mais avec derrière de vraies questions. Parce qu'effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas parfois un comportement trop opportuniste de capter des aides publiques en France et de délocaliser un peu trop facilement. Pour exemple, je citerai Bruno Le Maire, qui est pourtant pas des accents de Jean-Luc Mélenchon, mais qui les a pris récemment lors de ses vœux. Il a dénoncé le comportement de ces chefs d'entreprise qui délocalisent un peu trop facilement et il visait certains groupes du CAC 40. Donc vous voyez, on va démarrer une séquence de procès du CAC 40 qui est souvent excessive, je trouve, parce qu'on peut quand même se réjouir que des groupes fassent des profits, on va en profiter, mais en posant derrière de vrais problèmes.
C'est vrai que Jade Delépreuvier, ces entreprises, d'ailleurs on dit les entreprises du CAC 40, c'est un groupe à part, des entreprises qu'on sait très puissantes et qui véhiculent une image d'arrogance et qu'on adore détester. Elles ont tout fait pour ou on est bien injuste envers elles?
On savait qu'avec cette année de forte reprise économique, il y aurait cette question du partage de la valeur où on allait voir les entreprises en effet qui allaient faire des gros profits. On titre partout « la croissance repart », »,« la croissance n'a jamais été aussi forte ». Et on se disait « il y a beaucoup de gens qui vont se sentir laissés de côté et se dire « mais moi, est-ce que mon salaire augmente ? Non, alors que l'inflation augmente. Qu'est-ce que moi, je gagne à cette croissance que je vois un peu partout dans ces bénéfices et dans ces informations ?» Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit en ce moment que les groupes essayent d'anticiper ces critiques avec Total qui fait ce geste. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, c'était Vinci qui gelait ses tarifs pour certains petits trajets sur les autoroutes. Donc les groupes comme ça anticipent ce côté « attention, on va me reprocher de ne pas assez d'être le gagnant et que les autres sont les perdants », avec des mesures qui ressemblent presque à ce que fait l'État, à faire un geste, de donner un
double chèque énergie d'ailleurs Total, pour voilà. Les clients précaires dans le gaz.
En ce moment, il y a à la fois l'État et les groupes privés qui essayent d'aller un peu plus loin dans ce partage de la valeur pour montrer que la croissance ne profite pas que à certains. Et dans la campagne, il y a une proposition qui se développe aussi énormément, qui est la participation. Donc c'est l'idée que quand on verse des dividendes, on doit forcément donner une participation aux salariés. Thibault Langsade, donc c'est un entrepreneur à qui le gouvernement a confié une mission. Lui, il dit... Il faut que ça soit obligatoire pour toute entreprise de verser une participation à ses salariés avant de verser des dividendes. Donc c'est une proposition très forte. Et en fait, ça remonte à très longtemps, ça remonte à 67. C'était le général de Gaulle, qui est très à la mode aujourd'hui, qui avait proposé ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les syndicats étaient plutôt contre. Ils avaient dit, ce sont deux populations très séparées.
L'actionnaire et le salarié,
deux mondes différents, muraille de Chine... Et d'ailleurs, le salaire, c'est mieux parce que c'est garanti. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, les dividendes, pourquoi ça serait que pour les actionnaires? Il faut aussi que les salariés soient intéressés à la réussite de leur entreprise.
Alors, vous l'avez dit, hein, c'est vrai que ces méga-profits du CAC 40 aiguisent les revendications salariales avec des grèves. Pas que dans le CAC 40, d'ailleurs, dans de grosses entreprises, chez Lustucru, par exemple. Regardez ce sujet de Dorothée Lachaud et Pauline Juvigny.
Thermal Céramics. Lustucru frais. Deux usines en grève. Une même revendication, augmenter les salaires. Sur le site de Thermal Céramics, la colère gronde depuis 3 semaines. Les syndicats affirment que l'entreprise a réalisé des bénéfices exceptionnels en 2021 et réclament des hausses de salaires proportionnelles.
Aujourd'hui, on nous propose 2,6% d'augmentation générale alors qu'on était parti sur 10. Avec un bénéfice net du site de Saint-Marcellin de 10 800 000 euros pour 2021.
Mêmes attentes chez Lustucrufret, où la production est à l'arrêt depuis lundi. Selon les syndicats, l'entreprise aurait dégagé 10 millions d'euros de profit, mais ne leur propose que 2% d'augmentation.
On estime que par rapport aux bénéfices de l'année, les salaires sont trop bas, que l'entreprise ne répartit pas assez ses bénéfices aux ouvriers.
Pendant la crise sanitaire, on était présents, on était au boulot et aujourd'hui, on ne nous récompense pas malgré nos très bons résultats. Donc, ce n'est pas possible.
Des profits records qu'affichent certaines PME, mais aussi les grosses entreprises françaises, comme BNP Paribas, qui dégage 9,5 milliards d'euros en 2021. Une pluie de bénéfices dont les salariés estiment ne pas assez profiter. 0,6% d'augmentation des salaires et un complément d'intéressement et de participation. Très insuffisant pour cette représentante du secteur.
Les salariés sont imposés sur ces sommes-là, s'ils les touchent directement. Et s'ils ne les touchent pas directement, en fait, ils vont les poser sur l'épargne salariale qui, elle, est bloquée pendant 5 ans. Donc ça ne rentre pas toujours dans le pouvoir d'achat des salariés.
Cette année, le CAC 40 pourrait engranger 137 milliards d'euros de profits.
Alors, c'est vrai que, Béatrice Mathieu, d'abord, on s'interroge sur ces milliards qui pleuvent comme jamais alors qu'on sort d'une période de crise comme on a rarement vu. Je cite la responsable de la CGT Banque qui dit « Quand on voit ce qui est distribué aux actionnaires, et ce qui revient aux salariés, forcément, ça énerve. On voit bien que le salarié se compare aux actionnaires et il dit « Moi, au mieux, on me propose une prime. » Mais on a entendu dans le reportage. Ce que veulent les salariés, c'est du salaire pérenne et des hausses.
Alors, c'est comme la perception sur le coût de la vie. Il y a la perception et il y a la réalité. Quand on regarde sur longue période, la répartition de la valeur ajoutée, c'est la répartition des fruits de la croissance. En fait, la France fait assez exception dans les grands pays riches. Il n'y a pas déformation, ce que disent les économistes, il n'y a pas déformation du partage de la richesse créée en défaveur des salariés. Alors, on entre peut-être dans une période qui est différente aujourd'hui.
Contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis, voilà, en France,
ce qu'on voit dans
le salarié n'a pas tant perdu que ça par rapport aux gains qui sont réalisés dans l'entreprise. Voilà, il a été associé, il en a profité.
Voilà, je veux dire, on a eu des salaires, grosso modo, qui ont progressé comme les gains de productivité, et même un peu plus. Donc en France, c'est vraiment une spécificité.
On est un îlot dans les
grands pays, dans les grands pays riches. Alors, 2021, c'est quand même un petit peu particulier parce qu'on a un rebond qui est extrêmement rapide et on voit bien des profits records. Encore une fois, comme disait Thierry Fabre, il faut s'en réjouir. Moi, je préfère qu'effectivement on dise les entreprises gagnent beaucoup d'argent plutôt que si vous commenciez votre émission en disant tous les groupes du CAC 40 sont subclaquants. Donc le problème, c'est effectivement comment on répartit. Donc là, on entre aussi dans un nouveau monde parce que on a de façon, à mon avis, structurelle, une inflation qui est un peu plus élevée que ce qu'on a eu au cours des 20 ou 25 dernières années. Pour plein de raisons, on était à entre 0 et 2. Peut-être que demain, il est possible qu'on soit entre 2 et 4% d'inflation. Ce qui veut dire que ces revendications salariales sont justifiées. Le problème de l'intéressement et de la participation, c'est qu'effectivement, le salarié bénéficie de la richesse de l'entreprise et de la performance de l'entreprise. Une partie des syndicats vont vous dire que ça ne va pas être pris en compte en fait dans le calcul de la retraite demain. C'est pour ça qu'à l'origine, d'ailleurs, ils n'étaient pas très, très, très pour cette solution de la participation et de l'intéressement. Et donc, aujourd'hui, les entreprises vont sans doute devoir faire les deux, c'est-à-dire de la participation et de l'intéressement, parce qu'il faut associer, parce qu'on est aussi dans un monde où on a beaucoup parlé de la grande démission, mais conserver les gens dans l'entreprise, conserver le savoir-faire, la main-d'œuvre, c'est très important. Donc il va falloir associer plus les salariés à la gouvernance aussi et aux résultats de l'entreprise, mais aussi répondre à ce monde d'inflation qui est plus élevé.
Thierry Fabre, ce qui est surprenant, c'est que même chez LVMH, là, on apprend aujourd'hui, c'est le monde qui nous l'apprend, il y a 5 ateliers, donc celui d'Asnières, 2 en Ardèche et 2 dans l'Indre, qui font des appels à la grève aujourd'hui. Pourtant, on avait cette idée, alors peut-être que c'est faux, mais que dans les groupes du CAC 40, les salariés étaient plutôt, j'allais pas dire bien traités, mais mieux traités en tous les cas, que dans les PME ou dans les petites entreprises subclaquantes qui, pour le coup, ne peuvent pas augmenter leurs salariés parce que là, sinon, c'est la clé sous la porte.
Ça, c'est clair. C'est-à-dire, souvent, il vaut mieux être salarié dans un grand groupe. On a beaucoup plus d'avantages et les problèmes salariaux se posent souvent dans les petites entreprises ou chez les indépendants, enfin, tous les emplois précaires qui se multiplient. Alors effectivement, ça pose question, mais je pense qu'il y a un phénomène qui est en train de se développer, c'est le changement de pouvoir. On voit bien qu'il y a un nouveau pouvoir côté salarié en ce moment, qui fait que bon, c'est alimenté, les revendications sont alimentées par l'inflation, par les super profits, on l'a dit, mais par autre
chose. Par Bruno Le Maire même qui dit « il faut rendre en espèces sonnantes et trébuchantes pour tous ceux qui travaillent ». Il appelle les patrons à augmenter les salaires, Bruno Le Maire.
Facteur encore plus important, c'est la pénurie d'emplois. C'est-à-dire que les patrons, souvent, ils n'augmentent pas les salaires de gaieté de cœur par altruisme, mais là, en ce moment, parce qu'ils sont obligés. Quand vous voyez la restauration, le patronat de la restauration, qui dit qu'il faut augmenter de 8% les salaires, mais moi, les bras m'en tombent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tout simplement, il y a une telle pénurie d'emplois qu'il n'y a plus d'autre solution que d'essayer d'attirer par des hausses de salaire. Parce que vous parliez de ce qu'on appelait la grande démission aux États-Unis, c'est un phénomène extraordinaire. Les gens qui ont changé de job après la crise et qui fait que l'inflation salariale est en train d'accélérer. Donc, il se passe un
truc. Chez McDo, ils ne trouvent plus de serveurs aux États-Unis, donc ils sont obligés d'augmenter les salaires. D'ailleurs, ils ont augmenté le SMIC, je crois, aux États-Unis.
C'est ça, mais d'ailleurs, vous parlez de SMIC qui va augmenter de 20% en Allemagne.
En Allemagne.
La nouvelle coalition qui a augmenté au Royaume-Uni. On est maintenant dépassé en niveau de SMIC par le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Donc, le SMIC britannique et le SMIC allemand sont supérieurs au SMIC français.
Absolument. Alors que longtemps, on a été montré comme la nation dite socialiste d'Europe. Bon, mais ça veut dire qu'il y a un phénomène nouveau qui est que les salariés ont plus de pouvoir, de fait, pour revendiquer et les patrons sont obligés d'augmenter les salaires. Alors, c'est d'autant plus intéressant en France où, comme vous le disiez, on n'a pas subi ce phénomène d'érosion salariale comme aux États-Unis, où là, il y a eu un partage vraiment très bénéficiaire, enfin, très favorable aux entreprises, beaucoup moins en France. Donc, d'un autre côté, on subit moins violemment que les États-Unis cette vague, ce changement de pouvoir. C'est-à-dire que l'inflation salariale aux États-Unis est encore plus forte qu'en France. Mais c'est vraiment intéressant, pour revenir à votre question, oui, de voir des ateliers de grands groupes comme LVMH, où les revendications salariales se traduisent par des grèves. Ça, c'est totalement inédit.
Ça veut dire qu'on n'a plus peur, quoi. Le salarié, comme vous dites, sent que le rapport de force, du fait du manque de main-d'œuvre, est en train de basculer de son côté.
Exactement.
On ne peut plus lui dire si tu n'es pas content, c'est la porte parce qu'il n'y a plus personne pour le remplacer. C'est ça, hein, voilà.
En gros, c'est ça et on se rapproche quand même. On est encore à 7-8% de chômage, c'est-à-dire qu'on est loin du plein emploi.
Mais il y a bien des secteurs, on a du mal.
Les chiffres de l'INSEE qui sont sortis récemment sur les pénuries, c'est extraordinaire. C'est-à-dire 6 entreprises sur 10 qui ont des problèmes pour recruter. Quand on voit la courbe des pénuries d'emploi, on est au sommet historique. Donc ça a une traduction sur les salaires.
D'ailleurs, Jade Delépremier, c'est toujours un mystère. Comment se fait-il, je crois qu'il y a un patron sur deux qui dit que son problème numéro un, c'est d'embaucher, alors qu'on est encore dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs. On n'arrive pas à faire en sorte que les chômeurs puissent coller avec les besoins des entreprises.
Oui, c'est tout le problème que les entreprises travaillent encore plus avec les centres de formation, avec Pôle emploi, pour que leurs besoins correspondent aux compétences des chômeurs de longue durée. D'ailleurs, il y a des chiffres de l'emploi qui sont très très bons, c'est-à-dire qu'on a créé 650 000 emplois cette année, 300 000 depuis avant crise, donc c'est excellent. Mais quand on regarde en détail les chiffres du chômage, on voit que la durée d'inscription à Pôle emploi augmente et que en fait, les gens qui sont retournés au travail, c'est des gens qui étaient au chômage depuis 6 mois à 2 ans au maximum et qu'en fait, on a toujours un problème avec les gens qui sont inscrits à Pôle emploi depuis 3 ans et plus.
Qui sont sur les mauvaises formations, les mauvaises compétences, celles dont on n'a plus besoin, quoi.
On n'arrive pas à sortir du chômage. Donc, ce que disent les spécialistes, c'est qu'il y a quand même... C'est super en ce moment la santé du marché de l'emploi. Cette pression va forcer les salaires à augmenter. Mais attention, en France, on n'a pas encore résolu le problème éternel du chômage de longue durée.
Alors, dans les petites entreprises également, les salariés ont les mêmes revendications salariales parce qu'ils sont confrontés aux mêmes hausses de prix pour faire le plein d'essence, tout simplement. Sauf que les petits patrons n'ont pas toujours les moyens de satisfaire à ces revendications salariales. Voyez ce reportage dans un salon de coiffure de Catherine Rougerie.
Après son CAP, Elena Bernadotte a été embauchée il y a 7 ans dans ce salon de coiffure. Un métier choisi par passion, elle touche aujourd'hui 1260 euros net par mois. Pas facile pour boucler son budget.
On a quand même des trucs à payer aussi, on a un loyer, on a des factures, donc on peut pas, en sous le SMIC c'est compliqué quand même.
Dans la coiffure, les plus bas échelons sont inférieurs au SMIC. Même en étant revalorisés, année après année, ils ne dépassent pas le salaire minimum. Mais dans ce petit salon, difficile pour elles de réclamer une augmentation.
Les pauvres patrons, c'est pas eux aussi, parce qu'ils ont plein de charges et plein de trucs aussi à payer, donc c'est pas facile.
C'est incroyable ça, Béatrice Mathieu, mes pauvres patrons. On a des salariés qui disent, oh, vous savez, mes patrons, ils n'ont pas le sou. On a vraiment en fait deux France hein, dans le monde de l'entreprise. On a CAC 40, mon riche patron, et mon pauvre patron qui ne peut pas me payer.
Ah bah oui, c'est-à-dire que la différence dans le CAC 40, vous avez entre l'employé de base et le grand patron, vous avez 10 échelons. Là, dans le salon de coiffure, la coiffeuse, la patronne, elle est à côté, elle fait aussi les brushings. Donc effectivement, je pense que
Ils ont moins bénéficié de la reprise, eux, ils sont empêtrés dans des problèmes.
Ils ont moins bénéficié de la reprise parce que la reprise dans les grands groupes a été aussi tirée par un contexte mondial qui a été beaucoup plus porteur. Là, le cas, c'est des petits magasins, des petits commerçants, des salons de coiffure, etc., où la consommation a été quand même beaucoup plus poussive. Donc là, effectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi parce qu'ils ont, même si les délais pour rembourser les fameux PGE, les prêts garantis par l'État qui ont été octroyés pendant les plus forts de la crise, ce remboursement a été étalé. Il n'empêche que ça va peser longuement, en fait, sur les trésoreries.
Parce que l'argent qu'a accordé Bercy pendant le Covid, c'était de l'argent prêté.
Ah, c'était de la...
Il va falloir rembourser.
Ça n'était pas des cadeaux. Voilà. Hein, les prêts garantis par l'État, ce n'est pas un chèque en blanc. Il va falloir les rembourser. Ou alors, ceux qui ne pourront pas les rembourser, il y aura des défauts qui seront organisés. Mais,
c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de faillite, d'ailleurs.
Bien sûr, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de chèque en blanc pour les entreprises. Et on voit bien une dichotomie qui est très importante qui est en train de se créer entre les salariés des grands groupes qui bénéficient effectivement des salaires, mais aussi des mutuelles qui sont plus généreuses, des CE, de la formation, un environnement qui est plus confortable en fait quand vous êtes salarié d'un grand groupe, et dans les petites entreprises, dans les PME, chez des artisans, vous avez la mutuelle maintenant, vous l'avez, mais c'est sans doute pas le même contrat que ce que vous avez dans une grande entreprise. Donc cette dichotomie, elle est importante et elle se creuse.
Thierry Fabre, c'est ce qu'on dit souvent en France, on a des géants du CAC 40 qui se portent très bien, mais en dessous, on a ce qu'on appelle alors les PME ou même les entreprises de taille intermédiaire qui ont beaucoup plus de difficultés. Hier, les Échos disaient, tiens, c'est 5 sujets qui irritent les patrons. Bah justement, le rembourser le PGE, comme vous dites, c'est compliqué. Le télétravail, ils disent oui, mais la hausse des salaires, plutôt non. Je cite les 5 cas. Hein. Le RSE, on verra plus tard. Le RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est tout ce qui est écologie, parité, sociétale, etc. On verra plus tard. Et le surcoût des matières premières. En fait, un petit patron au quotidien, lui, son horizon, sa vie au quotidien est parfois compliquée.
Elle est souvent compliqué.
Vous les interviewez souvent chez Challenge.
Tout à fait. Elle est évidemment compliquée. Il faut quand même insister sur un point nouveau, c'est l'effet du quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire. Avec les milliards déversés, on parlait du PGE, mais il y a eu beaucoup d'aides.
Et le chômage partiel, où là, pour le coup, l'État a payé.
Et le chômage partiel. Non, mais attendez, l'indicateur, c'est que les faillites n'ont jamais été à un aussi bas niveau. C'est quand même extraordinaire.
Alors, il va y avoir un effet boomerang. Alors,
un effet boomerang, peut-être. On l'attend depuis chaque année. On se dit, oui, le remboursement va faire, va causer des dégâts. Mais sauf que chaque fois, l'État retarde. C'est-à-dire que le PGE a encore été retardé récemment. Si vous voulez, on est dans une atmosphère avec une injection massive de milliards liés au quoi qu'il en coûte, de prêts, d'aides, avec à chaque fois, donc, l'État qui est toujours plus généreux et donc la conséquence, c'est que nos entreprises sont plutôt en bonne situation financière, y compris les PME par rapport à ce qui se passait avant. Donc, sauf que c'est une espèce de bulle. On se dit, on va en sortir un jour. Mais si vous voulez, dans la restauration, moi, j'ai plein de témoignages dans ma région natale du sud de la France où les restaurateurs me disent, moi, j'ai fait une terrasse Macron. C'est ce que c'est la terrasse
non,
Macron. La terrasse Macron, c'est le fait les aides pendant cette période. On va l'utiliser, quoi. On va changer de resto. Donc ça, c'est une forme de dérive, mais qui a été même anticipée par Bercy. Hier, quand on posait la question au ministère des Finances, il nous disait, mais vous savez, le quoi qu'il en coûte, on n'allait pas commencer à filtrer. C'était trop grave. Il fallait arroser. Donc pendant 2 ans, on a arrosé. Et ce qui fait que la situation, elle n'est pas dramatique pour nos PME. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans les deux ans qui viennent. Mais si vous voulez, voilà, on connaît les plaintes patronales récurrentes, il faut juste les limiter, les nuancer par rapport à l'argent public qui a été déversé.
Ce qui est incroyable, Jade Delépreuvier, c'est jusqu'à présent, les petits patrons, quand on les interrogeait, ils disaient « moins il y a d'État, moins je reçois de l'aide de l'URSSAF, mieux je me porte ». On s'aperçoit que pendant ce Covid, les patrons, ils étaient bien contents d'avoir l'État pour les aider. Mais il y a un deuxième point, il y a eu beaucoup de créations d'entreprises l'an dernier, et il y a eu France Initiative qui a fait cette enquête auprès des jeunes créateurs d'entreprises qui a dit quel a été le problème numéro un que vous avez rencontré, on va regarder le classement, quand vous avez créé votre entreprise. Eh bien, ces jeunes gens qui se lancent disent en numéro un, les formalités administratives. 47%, et c'est loin devant tout le reste, hein, c'est devant obtenir un financement, trouver des clients, trouver des compétences, etc. Est-ce qu'on a parlé d'un impôt paperasse? C'est aussi quelque chose de très vrai dans le quotidien des petits patrons.
Il y a un candidat à la présidentielle qui s'appelle Gaspard Koenig, dont le programme est uniquement la simplification administrative.
Il ne parle pas de baisser les charges, il parle de baisser la paperasse, lui.
Exactement, et il veut aussi baisser les charges, mais baisser les aides en même temps. Enfin, il veut tout baisser, tout supprimer, il veut vraiment faire beaucoup moins d'État. Alors, ça serait intéressant de voir est-ce que les entrepreneurs vont appeler à voter pour lui, parce que sur le papier, il répond au moins à une partie de leurs demandes en disant... je veux que ça soit possible aujourd'hui pour un entrepreneur de créer sa boîte facilement. Et en fait, lui, c'est vrai qu'il a traversé toutes les routes de France. Et quand il rencontrait les gens, il disait « mais la chose dont tout le monde me parlait, c'était la paperasse, avec des règles complètement absurdes pour des gens qui veulent simplement embaucher des salariés, créer de l'emploi, ce qu'on attend toujours, et créer de la valeur en France. » Donc en effet, la simplification administrative, c'est un énorme sujet en France. Et pour en revenir aux aides d'État qui ont été déversées pendant ces deux ans, ce qui est marrant, c'est que maintenant, l'État dit aux entreprises « bon, bah, moi, j'ai fait mon job, et maintenant, il serait gentil que vous augmentiez les salaires, parce que l'État, mis à part en augmentant le SMIC, ne peut pas décréter des hausses de salaire dans le privé. Donc, il essaye de dire aux entreprises « attendez, vos marges ont augmenté grâce aux aides d'État, vous êtes en très bonne santé, il serait temps d'augmenter les salaires ». Et l'exemple de la coiffure est très bon parce que c'est un secteur qui est pointé du doigt par le gouvernement parce que les minima salariaux dans la coiffure sont sous le SMIC.
Alors même si la coiffeuse est payée au SMIC...
Exactement. On n'a pas le droit de payer quelqu'un sous le SMIC. Voilà, donc qu'est-ce interdit. Que ça veut dire? C'est qu'en théorie, le minima salarial est sous le SMIC. Dans les faits, l'employeur compense pour tous ceux qui sont sous le SMIC, mais il y a quand même un résultat sur toute la branche, c'est que toute la branche est tirée vers le bas puisque tous les salaires de la branche sont indexés très très bas. Et aujourd'hui,
quand on vous augmente, vous n'avez rien de plus parce que de toute façon, vous étiez en dessous du SMIC.
Donc voilà, c'est ça. Donc vous êtes très peu augmenté quand vous...
Okay. L'entreprise... Il y a une smicardisation du métier.
Exactement. Quoi. Et ce qui est encore pire, c'est que les entreprises sont incitées à faire ça parce que plus les minima salariaux sont sous le SMIC, plus elles ont d'exonération de charges. Donc il y a tout un système contre-productif qui s'est installé sur les
salaires. La
trappe
au SMIC. Hein,
voilà. Exactement, où l'État a fait beaucoup de subventions, mais aujourd'hui, on a du mal à dire « bon bah, il faut que le privé prenne le relais ». Et il y a beaucoup d'effets contre-productifs sur ces baisses de salaire.
Alors, on voit les difficultés au quotidien de ces entreprises de taille intermédiaire qui, on le sait, sont l'une des faiblesses de l'économie française. Autant on a très grandes entreprises, mais qui réalisent les trois quarts de leur activité à l'étranger, autant les entreprises de taille intermédiaire qui font la force de l'économie allemande, ben nous, on en a beaucoup moins en France. Tout ça pour nous amener au déficit de la balance commerciale, puisque ce serait la faiblesse de ces entreprises intermédiaires qui expliquerait ce trou record de notre commerce extérieur, un déficit de 85 milliards d'euros pour l'année 2021. La France est un pays qui importe beaucoup, mais qui exporte peu. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais ça s'aggrave. Sujet de Julien Duponchel et Steven Pichavant.
Sur la carte des échanges commerciaux mondiaux, les bateaux se pressent sur les côtes françaises, mais à l'inverse, les navires tricolores, eux, peinent à quitter leur port d'attache. En 2021, 500 milliards d'euros de marchandises ont été exportés à l'étranger, contre 585 importés. Un déficit historique, 84 milliards d'euros. En cause, le recul au fil des ans des exportations dans certains secteurs, comme ici, chez ce producteur de pommes du sud de la France.
Alors ces pommes partent en Angleterre, celle-ci Malaisie, Allemagne.
En 2002, la France était championne du monde de l'exportation de ce fruit. 19 ans plus tard, elle pointe à la 7e place. La production tricolore n'est plus assez compétitive, selon ce professionnel.
Une pomme produite en Pologne coûte entre 15 et 20 centimes. Chez nous, on dépasse les 40 centimes. Et dans une période où la main-d'œuvre est de plus en plus chère, où la réglementation, on a de la surréglementation au quotidien, fait qu'on perd cette compétitivité.
Alors Béatrice Mathieu, comment on peut se battre face à la pomme polonaise à 20 centimes? On pourrait se mettre à 19?
Non, cette question du commerce extérieur, elle est compliquée parce que vous avez pris l'exemple d'un producteur de pommes où là, le coût de la main-d'œuvre est évidemment important parce qu'on n'a pas encore de robots qui ramassent les pommes. Voilà, donc là, effectivement, l'effet coût de la main-d'œuvre joue beaucoup. On ne peut pas se battre
face à un coût de la main-d'œuvre moins cher.
C'est de fait, effectivement, très compliqué de se battre avec la Pologne ou des pommes qui viennent de Chine, parce qu'il y a beaucoup de pommes aujourd'hui que l'on mange qui viennent de Chine. Donc là, effectivement, c'est très compliqué. Compétitivité qui est, effectivement, il le dit très bien, érodée aussi par des normes qui sont sans doute aussi plus tatillonnes en France. Je sais que dans les fruits et légumes, il y avait eu un grand débat qui était sur l'emballage, en fait, comme il ne fallait plus emballer, il ne fallait plus faire d'emballage plastique. Mais demain et très prochainement, donc des emballages en papier ou en carton, eh bien, ça veut dire que pour ces producteurs-là, ces agriculteurs-là, il faut revoir toutes les chaînes de production, sachant que cette norme-là, elle est imposée plutôt en France que dans le reste de l'Europe. Dans le reste de l'Europe, ils vont continuer à emballer en plastique. Donc, on voit bien que là aussi, ça fait, on revient à ce que propose un des candidats, Gaspard Koenig, en disant, on a aussi une surréglementation en France qui nous pénalise. Donc ça, c'est le problème des industries de main-d'œuvre. Puis après, vous avez les industries où le poids de la main-d'œuvre, finalement, est moins important. Et le problème de perte de compétitivité et de mauvais résultats à l'exportation n'est pas tellement lié à la question du coût et du salaire, mais plus à notre positionnement. Et là, la France pâtit toujours d'une espèce de moyenne gamme. On est dans le moyen. Et le moyen, aujourd'hui, ça ne paye pas. Soit vous êtes dans le haut de gamme et on voit l'automobile allemande, c'est l'exemple qu'on pointe toujours, ou vous êtes dans le low cost et le bas. Mais le moyenne gamme, ça ne se valorise pas bien et vous êtes pris en fait en étau entre du haut de gamme et du moyenne gamme et du bas de gamme et ça ne se ment pas. Donc il y a un positionnement et on voit bien aussi que ça, ce que les gouvernements successifs ont essayé de faire sur la compétitivité, on avait eu le choc d'offres de Hollande, le CICE,
oui, voilà,
les baisses de charges, on a eu les baisses d'impôts de production, etc. Et on se dit, le CICE de Hollande, ça commence à faire quelques années quand même. Et quelques années après, on a toujours un déficit commercial et un déficit manufacturier, parce qu'il faut enlever les scories liées à l'énergie, qui est encore de plus en plus important. Donc on voit bien que ça n'est pas simplement une question de charges et de baisse de charges sur les salaires. Il y a une question de positionnement et donc d'innovation derrière.
Alors Thierry Fabre, Béatrice Mathieu parlait du positionnement bas de gamme ou moyen de gamme. C'est vrai que dans l'automobile, les Allemands sont positionnés sur le haut de gamme, les Français sont positionnés sur les petites voitures d'entrée de gamme, les petites 208, etc., qui se vendent très bien. Sauf qu'on va voir la liste des voitures les plus achetées l'an dernier en France par les particuliers. Dans cette liste de 10, vous voyez, il y a beaucoup de voitures françaises. Vous savez qu'il n'y en a qu'une qui est fabriquée en France. C'est la Yaris. Toutes les autres sont fabriquées en Slovaquie, en Slovénie, etc. Typiquement, c'est le genre de positionnement bas de gamme qui fait que d'ailleurs, balance commerciale dans l'automobile, elle était excédentaire de 12 milliards en 2004, elle est maintenant déficitaire de 18 milliards d'euros.
En fait, ce secteur, ça révèle le drame de l'industrie française. C'est très révélateur. Je me rappelle très bien au moment sous Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, il commençait à s'inquiéter.
Christian Estrosi, parce qu'on avait délocalisé en Turquie.
Sous Nicolas Sarkozy, il avait poussé un coup de gueule auprès des producteurs français en disant arrêtez de délocaliser. À l'époque, c'était le renversement. On commençait à passer en négatif. Mais quand on voit depuis le chemin parcouru, c'est hallucinant. Donc effectivement, ça révèle ce que vous disiez sur... ça fait des années qu'on dit qu'on est mal positionné, on n'arrive pas à monter en gamme, en fait. C'est ça le problème de l'industrie. On voit bien qu'il y a des allègements massifs qui ont été faits. Vous citiez le CICE, mais rappelons la baisse de l'impôt sur les sociétés, les impôts de production. Enfin, les allègements de charges, depuis le rapport Gallois il y a 10 ans, on a réalisé qu'il fallait alléger pour notre industrie. Donc la prise de conscience sur le diagnostic, elle est là. Et ça marche pas après, parce que c'est pas seulement une histoire de coût, c'est une histoire de recherche, d'innovation, d'organisation de filières. On voit bien que la filière allemande entre grands groupes et PME, elle est beaucoup mieux organisée que chez nous. C'est une histoire de comportement aussi des entreprises, des chefs d'entreprise quand même. Beaucoup disent que les Français ont plus délocalisé que d'autres, notamment Renault par exemple, qui a été qui a pris de l'avance. Alors c'est sûr, avec des arguments de coût, sauf qu'ils sont allés extrêmement loin. dans la délocalisation. Là, on voit bien qu'on recule, on fait chemin alors, inverse.
On a préparé la fameuse phrase de Serge Tchuruk, hein, l'ancien patron d'Alcatel, qui au début des années 2000, on va voir sa fameuse phrase, avait inventé le concept d'entreprise sans usine. C'est-à-dire qu'on s'est dit finalement, on va faire fabriquer par les Chinois et nous, on ne sera plus que la tête pensante de l'industrie, on n'aura plus que les labos en Europe, en France.
On a vécu dans cette illusion quand même toutes les années 2000 et une partie des années 2010, c'est extraordinaire. Quand on fait le flashback, on y a cru. Hein. C'est-à-dire on s'est dit, voilà, tout ce qui est low cost, on délocalise et nous, on sera à la tête et on va se transformer. On n'a pas vu à quel point le fait de fermer un site industriel, ça avait un impact dans l'économie et au niveau social aussi. On peut lier ça à la montée des extrêmes et du Front National. On voit bien que le Front National s'est beaucoup développé dans les endroits.
Une usine qui ferme, c'est une permanence du Rassemblement National qui ouvre, dixit Bruno Le Maire.
Je crois qu'il a totalement raison. Et donc, on a vu à quel point on se rend compte un peu tard à quel point ça l'impact social dans l'emploi. On voit bien que notre emploi, il est totalement déformé. C'est-à-dire qu'on a des postes très qualifiés, certes, c'est-à-dire ce qu'espérait Serge Tchuruk, mais les emplois intermédiaires ont disparu. Et il nous reste des emplois précaires de livreurs & co qui se développent beaucoup, de logistique. Et donc ça, c'est l'effet de notre désastre industriel, qui fait qu'on a perdu ces emplois parce qu'on n'a pas réussi à inverser la tendance. Je finis juste sur le fait que moi, ce qui me déprime, c'est le fait de voir que d'autres pays, notamment nos voisins, s'en sortent beaucoup mieux. Quand on voit l'Espagne et l'Italie qui ont gagné des parts de marché ces deux dernières années, alors que nous, on continue à en perdre, on se dit « mais il y a un problème ».
C'est vrai que l'Italie hein, est en excédent commercial. Bon, j'ai hâte de l'éprouver, c'est une tarte à la crème, mais là, ça me tendait les bras. Ce matin, dans les Échos, qu'est-ce que je lis ? Exportation, l'Allemagne a un plus haut historique, plus 14%, 1375 milliards d'euros.
Nos voisins européens, leurs exportations sont 3 à 9% au-dessus de leur niveau d'avant-crise, alors que nous, nos exportations sont encore 2% en dessous. Donc on ne peut pas juste dire c'est la crise. Certes, on paye plus cher l'énergie, donc ça draine les importations vers le bas. Certes, il y a eu l'effet Covid, mais en fait, ce n'est pas que ça. Structurellement, on perd des parts de marché par rapport à nos voisins européens. Et eux, ils exportent déjà plus qu'avant crise et nous moins. Donc ça aujourd'hui, le gouvernement, il y a différentes voies, mais il a la tentation de dire « Ah, mais c'est le Covid, c'est l'énergie, ce n'est pas structurel ». Mais dans les chiffres, on voit qu'il y a un problème structurel. Et face à ça, le problème, c'est que le logiciel qu'on a toujours appliqué, c'était en effet de dire « on va baisser les charges pour aligner le coût du travail sur celui, par exemple, de l'Allemagne ». Et là, de plus en plus d'économistes, en voyant ce chiffre désastreux du commerce extérieur, disent « Mais attendez, est-ce qu'il faut qu'on continue ?» dans cette stratégie qu'on a toujours appliquée, parce qu'en effet, ça fait presque 10 ans, des économistes ont calculé que depuis 2014, les baisses de charges ont représenté 60 milliards d'euros donnés aux entreprises. Et aujourd'hui, les industriels, la semaine dernière, France Industrie, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils ont dit, mais il faut encore plus les baisser. Ils ont demandé 35 milliards d'euros de plus.
Alors, ils disent, on veut revenir dans la moyenne européenne.
Voilà, mais aujourd'hui, le coût du travail, par exemple, il est revenu au même niveau que de 2001, quand notre décrochage a commencé avec l'Allemagne. Donc, on commence à se dire, mais attendez, on ne voit pas vraiment les effets de cette stratégie qui, pourtant, nous coûte très cher. Il y a aussi des études qui montrent que le CIR, par exemple, le Crédit Impôt Recherche, très apprécié des entreprises, bénéficie plus aux grands groupes qu'aux PME et qu'il y a peut-être des effets d'aubaine pour les grands groupes. Et donc, on dit, on met énormément d'argent, ça serait bien que ça commence à payer. Et une autre réponse classique, c'est de dire, mais on va reconstruire des filières européennes, on va en parler sur les puces, les batteries, etc. Et c'est l'Europe qui va nous sauver. Mais attention, ce problème, il est franco-français. Ce n'est pas un problème européen. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, l'Allemagne et l'Italie, ils vont nous dire, mais nous, on est déjà en excédent commercial. Donc, pourquoi on serait d'accord.
Le Made in Italy marche très bien dans
Exactement.
Le monde entier, bien
pourquoi,
mieux que Made in France.
Pourquoi vous feriez des aides d'État françaises à vos entreprises ? Pourquoi on vous autoriserait à subventionner
Alors, c'est quoi le problème, là ? Vous nous avez tous aguichés. Si ce n'est pas un problème de charge, c'est un problème qu'on n'arrive pas à monter en gamme, c'est ça ?
Eh bien, en effet, il y a ce problème de... Ça y est, on s'est aligné sur les autres en termes de coûts, mais on est sur le moyen de gamme et donc ça ne marche pas. Il faudrait beaucoup plus... innover. Et puis, il y a toute cette question de peut-être encourager plus, qu'on ait des aides qui encouragent plus les PME, les ETI et qui soient moins effet d'aubaine pour les grands groupes.
Bon, si je peux me permettre de compléter, moi, ce qui me fascine, c'est dans les milliards dépensés, c'est le CICE, par exemple.
Alors l'aide ça, c'est pour baisser les charges.
Oui. Le CICE, on a bien vu, on a fait l'audit, c'est une aide qui a servi qui n'a pas servi à l'industrie, alors qu'elle était faite pour l'industrie.
Alors les industriels disent oui, mais pour innover, il faut du temps. Il faut d'abord qu'on fasse des marges.
Les milliards du CICE, ils ont été utilisés pour tout le monde, arrosés dans toute l'économie, alors que le problème identifié par Louis Gallois à l'époque, c'était notre industrie. Donc si on avait concentré les allègements sur notre industrie, peut-être qu'il y aurait des résultats différents aujourd'hui.
Alors justement, on a parlé de l'automobile. Est-ce que l'automobile va réussir à s'en sortir, à monter en gamme et à bien négocier le virage de la voiture électrique, parce qu'aujourd'hui, toutes les batteries viennent de Chine. Et bien donc, on a eu un troisième projet de batterie électrique à Dunkerque, dans le Nord, un projet porté par une start-up de Grenoble, à laquelle est associé Renault. Sujet de Julien Cholin.
Sur ce terrain vague du Nord, pourrait bientôt s'élever une gigafactory. Immense usine de batteries pour véhicules électriques. Un chantier gigantesque en perspective, un bol d'air surtout, dans une région durement touchée par les fermetures d'usines.
Ça va faire des emplois. C'est sympa, c'est une bonne nouvelle.
Parce que c'est un peu galère de trouver du travail dans le Nord, surtout à Dunkerque, il n'y a pas trop d'emplois.
Il y a beaucoup de personnes qui cherchent, qui ont du mal à trouver, et ça peut être des domaines supplémentaires vers lesquels se tourner, donc ça peut être que du plus, j'imagine.
À l'origine du projet, une start-up grenobloise soutenue par Renault, Schneider Electric et Arkema. Entre 1 et 3 milliards d'euros devraient être investis dans la construction de l'usine pour un début de production à horizon 2025.
Il y a une première phase effectivement qui permettra d'avoir entre 1000 et 1200 emplois. C'est 1,6 gigawattheure qui seront produites de batteries à ce moment-là. Et puis à terme, d'ici 2030, c'est possiblement 2000 emplois qui vont venir s'installer dans la commune de Bourbourg.
L'agglomération de Dunkerque, troisième future usine de batteries automobiles en projet, après celle de Douvrin et de Douai, avec à chaque fois 1200 à 2000 emplois annoncés. Un soulagement pour ces territoires. Mais ces emplois suffiront-ils à compenser la fin annoncée de l'industrie automobile thermique, prévue pour 2035 par l'Union européenne ? Les syndicats du secteur mettent en garde contre un possible choc social.
Pour faire un moteur diesel, il faut entre 7 et 10 personnes. Pour faire un moteur essence, il faut entre 5 et 6 personnes. Et pour faire un moteur électrique, en fait, il faut entre 2 et 3 personnes. Et en plus, on est sur des métiers différents.
Selon les représentants du secteur, l'électrification pourrait ainsi causer la perte de 100 000 emplois dans l'automobile d'ici 2035. Un chiffre réduit à 65 000 si la France parvenait à prendre le virage de l'électrique. Pour l'heure, en Europe, seule la Suède a vu sa première gigafactory démarrer sa production.
Béatrice Mathieu, c'est vrai que c'est ce que dit le patron de Peugeot Citroën. Il dit... Avec ce virage de l'électrique, on va liquider un siècle d'expertise dans le moteur thermique qu'on va bazarder sur une voiture électrique dont on n'est pas sûr qu'on aura la maîtrise et qu'on sera les rois. Parce que pour l'instant, le roi de la voiture électrique, c'est Tesla, c'est un Américain.
Oui, alors c'est marrant parce qu'en fait, le Vercors, le patron, c'est un des patrons de la start-up dont on parle.
Qui va faire des batteries électriques à Dunkerque.
C'est un ancien Tesla, donc il sait bien ce que ça veut dire faire des batteries électriques. On est dans une situation de dépendance incroyable sur la batterie. Dépendance qui a été aussi... les constructeurs là le constatent. Bon, ils n'ont pas fait aussi, ils ont tardé aussi à faire le virage de l'électrique. Ils ont été très tard, donc n'y croyant pas.
On a tous poussé le diesel, Volkswagen le premier.
Donc, nous, en France, on a une grosse filière diesel, donc on a toute une filière avec des sous-traitants dans le diesel qui sont très importants. Donc effectivement, le risque social est énorme. Alors on voit bien qu'il y a la filière batterie qui est en train de se structurer, mais il y a aussi une autre filière qui est la filière hydrogène. Et là, en fait, l'Europe et la France sont en train de parier beaucoup aussi sur la filière hydrogène. La question, c'est comment on va faire basculer une partie de ses sous-traitants qui faisaient du diesel à faire autre chose. Et donc, qui nécessite des plans de formation et de remise à niveau de compétences qui sont gigantesques. Donc, le risque social est monstrueux et va demander énormément là, d'argent des entreprises, mais aussi d'argent public pour accompagner la transformation de ces entreprises.
Thierry Fabre, est-ce que c'est... rassurant de voir que c'est l'État qui est à la manœuvre. D'ailleurs, c'est ce que dit Carlos Tavares. Il dit, vous savez, la voiture électrique, c'est un choix de l'État. Moi, si ça avait été mon choix, je n'aurais pas fait ça. On parle des puces électroniques, ça, c'est un choix de Bruxelles. L'hydrogène, c'est aussi un choix de l'État. Est-ce que l'État est... souvent, ce qu'on dit, c'est que les GAFA, ils sont créés tout seuls dans la Silicon Valley. Alors que la filière Minitel, qui était poussée par l'État, elle a fini en queue de poisson.
Moi, ça me rassure plutôt que la France et surtout l'Europe changent d'idéologie. D'accord. Sur l'industrie. Mmh. On se rend compte qu'on est passé complètement à côté. On était à côté de la plaque dans les années 2010. On n'a pas beaucoup investi. L'Europe, ça a été surtout un contrôle du marché libre et parfait, régulation de la concurrence. On a lutté contre ça.
On a pensé aux consommateurs et pas aux industriels.
Exactement. Et ils ont complètement changé d'optique avec la crise. Les grands projets industriels, les aides d'État, tout ça était interdit. Et donc, on se rend compte, l'exemple des batteries, on se rend compte que toutes les batteries sont en Chine. L'Europe a raté le virage. Et donc, maintenant, on essaye un peu de rattraper un petit peu le problème. Idem sur les microprocesseurs. Donc, ces grands projets industriels européens, et notamment le changement d'optique de l'Allemagne, qui investit désormais et qui pense à investissement et moins règles budgétaires, mais que de temps perdu. C'est ça, on a quand même désindustrialisé en partie à cause de ça, parce qu'on avait une vision très ultralibérale finalement du fonctionnement, alors que ailleurs, les Américains ne sont pas ultralibéraux. L'importance de l'État fédéral dans les grands projets, les aides d'État. Là, il y a une grande usine du microprocesseur. Bruno Le Maire disait que la moitié de l'investissement était payé par l'État fédéral américain. Ah oui. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur libéraux. Mais on a été un peu naïfs, si vous voulez, dans cette affaire. Et on en paye le prix. Alors, on se réveille, certes, un peu tard, mais au moins, on s'est réveillé.
On se réveille, mais alors, est-ce qu'on ne se réveille pas un peu tard, là? Les compétences dans les semi-conducteurs, est-ce qu'elles ne sont pas toutes en Asie? Dans le numérique, les GAFA sont... ça y est.
C'est sûr que pour se réveiller aujourd'hui, il faut mettre des investissements énormes qui demandent parfois de déroger aux règles européennes anti-concurrence, anti-aide d'État. Récemment, le commissaire européen Thierry Breton a annoncé un plan pour qu'on... l'Europe fasse sa propre filière de puces électroniques.
Voilà, 43 milliards. Exactement. Promis par Bruxelles pour les semi-conducteurs. Donc, ces puces électroniques qui sont dans toutes les voitures, dans tous les appareils, etc.
Voilà, 43 milliards d'euros. En gros, l'Europe a essayé de s'aligner sur le niveau qu'avaient mis les États-Unis. Eux, ils avaient mis 50 milliards d'euros. Donc, enfin, on arrive à atteindre leur niveau. Mais on voit qu'en effet, ça demande de mettre un argent énorme puisqu'on part avec du retard. En même temps, ce que dit le gouvernement aujourd'hui, c'est ça montre la force du politique. Regardez, cette filière n'existait pas il y a quelques années. Là, on met beaucoup d'argent et ça arrive. Le problème, c'est qu'on est dans un cadre exceptionnel où on a mis entre parenthèses les règles européennes sur les aides d'État et la concurrence à cause de la crise Covid. Et techniquement, on est censé revenir au régime habituel dès 2023. Donc on ne pourra plus aussi facilement faire ces grands choix. Après, il y a certaines personnes qui disent ce qui peut nous sauver, c'est peut-être la transition écologique, en tout cas comme exemple, parce qu'on pourra dire « Ah, pour des raisons écologiques, je veux encourager le local, la production locale, la consommation locale, pour ne pas polluer. » Mais en fait, in fine, ça permettrait d'une manière déguisée, enfin certains proposent ça, de faire du protectionnisme déguisé en disant « Moi, je mets en place une taxe carbone, je mets en place des règles anti-pollution. » Et le résultat, c'est que je privilégie les entreprises françaises.
En tous les cas, Béatrice Mathieu, pour terminer sur une note d'optimisme, on a appris ce matin la vente de 6 Rafales et même avec 36, une option de 36 de plus pour l'Indonésie. La filière aéronautique, on a l'impression que voilà l'un des derniers, peut-être le seul domaine d'excellence que la France a su conserver et même su faire prospérer.
Oui, la filière Rafale, qui dure les Rafales pendant des années, on n'en a pas vendu. Donc,
non, mais j'allais dire l'aéronautique d'une façon générale.
L'aéronautique
même.
Et l'aéronautique, toute la filière défense, effectivement, se porte plus.
Parce qu'on n'a pas délocalisé.
Et il faut voir aussi qu'il y a un effet géopolitique là-dedans qui est quand même dans les ventes de militaires, qui est très, très important. Donc, il faut aussi tempérer ça par l'effet géopolitique. Mais je voudrais juste remettre un petit point. Quand vous disiez, les GAFA, ils se sont fait tout seuls. Quand on prend Tesla, alors ce n'est pas un GAFA, mais c'est un géant, Tesla comme SpaceX, c'est le fils, Musk, c'est le fils de l'oncle Sam. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu...
La NASA pour lui commander les fusées.
À un prix...
Deux fois le prix du marché.
Voilà, ce qui lui permettait de casser les prix sur le marché privé, SpaceX n'existerait pas. Musk a beaucoup d'inventivité, mais heureusement...
Il avait aussi les aides de l'oncle Sam.
Il a eu l'Amérique et l'oncle Sam derrière lui.
Voilà. Toute la question de la commande publique, en fait. Bien aux États-Unis, il y a une commande publique très forte. Et là, dans la présidentielle et même en Europe, on entend de plus en plus de voix dire qu'il faudrait qu'il y ait une commande publique plus forte en Europe et en France, c'est-à-dire que les États payent pour racheter aux entreprises des produits.
Voilà, l'Europe qui sort de sa naïveté et qui se réveille pour rebâtir sa filière industrielle, c'est ce que vous disiez. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair qui, je le rappelle, est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Bonne journée sur France Info, à demain.